France Inter.
Salut Fred, je ne pouvais pas ne pas te laisser un message en cette dernière semaine de Blockbuster. Après toutes ces années de bons et loyaux services, je ne compte même plus toutes les œuvres que j'ai découvertes grâce à toi, que j'ai lues, que j'ai écoutées, que j'ai vues. Voilà. Là, tiens, par exemple, en ce moment, je découvre Fullmetal Alchemist grâce à toi et aussi grâce à ma médiathèque. Je suis sûr que vous êtes de mèche. Voilà, bon, j'espère que je pourrai t'écouter sur d'autres ondes très bientôt. Là, j'ai une petite émotion quand même dans la voix. Hein. Et je te souhaite bon vent, Frédéric.
Non, mais Stargate SG1, quoi. Non, mais Frédéric, mais c'est trop beau. Mais là, j'ai juste entendu Richard Dean Anderson. Oh là là, mais je viens de rentrer chez moi. Je vais m'installer tranquille sur le canapé. Tilk, quoi. Les Goa'uld, la mythologie égyptienne. Mais merci, Frédéric. Déjà, mais je suis fan de tout ce que tu fais depuis le début, tous les blockbusters. Mais là, je t'aime. Je t'aime. Merci.
Dear Blockbuster, I've just heard that Jane Austen will be online next week. The most famous English writer, finally. And in this show. Ah, non, elle est décédée. Et puis, faut pas mélanger des mots, c'est vrai. Il faut pas faire de séparatisme. Il faut garder la langue de Molière. Je suis vraiment désolée. Non, c'était surtout un message pour remercier Frédéric et remercier toute l'équipe de Blockbuster. J'ai commencé à écouter adolescente. Je continue d'écouter maintenant depuis quelques années, une fois adulte. And dear Blockbuster, for my home and my humble writing, best wishes. Allez. Salut et bonne émission.
To be or not to be, not to be.
Il manque des morceaux à l'amour. En littérature, au cinéma, dans les séries ou en musique, ils sont hyper forts pour parler de rencontres, de passions naissantes. Eh vas-y, qu'on te décrit un émoi provoqué par des doigts qui s'effleurent, qu'on te fait des gros plans sur un regard furtif, un sourire en coin. Oh là là, le premier rendez-vous, la première nuit. Même saturation thématique dès qu'on aborde les ruptures, les divorces, quand c'est pas simplement la disparition pure et simple de l'être aimé. Mais entre les deux, les récits sur l'amour qui durent, l'amour au quotidien, l'attachement spécial qui se crée entre deux personnes qui acceptent de se voir vieillir côte à côte, eh ben, que dalle. Les comédies romantiques ont préempté le début des histoires d'amour, les tragédies, elles, se sont réservées les séparations et les peines de cœur, mais le gros morceau de l'amour, ce qui constitue le plus grand pourcentage de son temps de vie, on a finalement laissé ça aux sitcoms. Oui, j'ose le dire, les plus belles représentations de couples qui s'aiment dans le temps, je les ai vues dans Malcolm, Fais pas ci, fais pas ça, Le Cosby Show ou Les Simpsons. L'amour qui dure, on sait en rire, beaucoup moins en parler comme on devrait. À la fin des contes de fées, on termine souvent par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est dommage, parce que c'est justement là que ça devenait intéressant.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
La colère d'Elisabeth grandissait de minute en minute. Cependant, grâce à un violent effort sur elle-même, elle parvint à se contenir et répondit « Vous vous trompez, Mr. Darcy. Si vous supposez que le mode de votre déclaration a pu me causer un autre effet que celui-ci, il m'a épargné l'ennui que j'aurais éprouvé à vous refuser si vous vous étiez exprimé d'une manière plus digne d'un gentleman. Sous quelque forme que se fût produit de votre demande, jamais je n'aurais eu la tentation de l'agréer. Depuis le commencement, je pourrais dire dès le premier instant je vous ai vu, j'ai été frappé par votre fierté, votre orgueil et votre mépris égoïste des sentiments d'autrui. Il n'y avait pas un mois que je vous connaissais et déjà je sentais que vous étiez le dernier homme du monde que je consentirais à épouser. Vous en avez dit assez, mademoiselle. Je comprends parfaitement vos sentiments et il ne me reste plus qu'à regretter d'avoir éprouvé les miens. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre temps et acceptez mes meilleurs vœux pour votre santé et votre bonheur.
Elle est, avec William Shakespeare et Agatha Christie, une des plus grandes représentantes de la littérature anglaise. Cette autrice du 19e siècle, à la reconnaissance tardive, a, par sa capacité à dépeindre avec humour les conventions sociales de l'époque, réussi à créer une œuvre alliant ironie, critique sociale et questionnement sur l'amour. Orgueil et préjugés, Raison et sentiment, Emma ou encore Persuasion, autant de livres qui ont su apporter un éclairage nouveau sur la condition des femmes. Et pour parler d'elle, je suis entourée par Clémence Pouletti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et chroniqueuse littéraire.
Tout à fait.
Avec nous également Claire Saïm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de Jane Austen, l'encyclopédie visuelle parue en 2024 aux éditions Hachette Heroes.
Avec Gwen Giray, oui.
Avec nous également Juliette Cousin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en littérature britannique et vous êtes également la créatrice du podcast Austen and Out.
Oui, c'est ça.
Well, I think it's amazing you young ladies have the patience to be so accomplished.
Je suis ébahie devant la patience qu'ont les jeunes filles à acquérir tant de talents.
Que voulez-vous dire, Charles?
Toutes savent peindre des tables, jouer du piano et broder des coussins. J'ai toujours entendu dire d'une jeune femme qu'elle était accomplie.
Certes, le terme est attribué trop généreusement. Pour ma part, je ne connais pas plus d'une demi-douzaine de femmes dans mes relations qui en soient vraiment dignes.
Moi non plus, je la comprends.
Vous devez englober beaucoup de choses dans ce qualificatif.
À deux.
Tout à fait.
Certes, une femme, pour être accomplie, doit avoir une connaissance de la musique, du chant, du dessin, mais aussi de la danse, des langues étrangères. Et un petit quelque chose dans sa démarche et dans son allure.
Et elle doit cultiver son esprit par des lectures régulières.
Alors je ne suis pas surprise que vous n'en connaissiez que six qui soient accomplis. Je m'étonne même que vous en connaissiez autant.
Êtes-vous si sévère pour votre propre sexe?
Une telle personne n'existe pas. Car assurément, elle ferait peur à ces messieurs.
Vous venez d'entendre un extrait du film Orgueil et préjugés, réalisé en 2005 par Joe Wright. Keira Knightley, doublée en français par Sybille Thureau, joue le rôle d'Elizabeth Bennet. Claire Saïm. Jane Austen bénéficie d'une notoriété phénoménale parmi les jeunes générations de lecteurs et lectrices. Alors, c'est déjà un fait assez rare qu'une autrice tire son épingle du jeu comme elle a su le faire. Mais pouvez-vous nous expliquer l'origine de cet engouement ?
Ouais. J'attendais cette question, Frédéric.
Vous la redoutiez même.
Tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, on me la pose assez souvent et j'ai pour coutume de dire qu'on a surtout des éléments de réponse, pas une véritable réponse. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Si on avait la recette, on la reproduirait. Voilà, donc Jane Austen, c'est une combinaison d'éléments, je dirais, qui fonctionne encore aujourd'hui. On a entendu les extraits. Et ça nous parle, ça nous parle parce que ça nous émeut, parce que ça nous fait rêver, ça nous fait voyager, ça nous transporte tout de suite dans l'Angleterre de la Régence, enfin il y a mille et une choses. Et la première raison que je devrais mettre en avant, c'est parce que c'est une grande, tout simplement, c'est une grande plume. Elle n'a écrit que 6 romans, mais quel roman ! Et voilà, ils s'inscrivent dans une histoire littéraire, un patrimoine mondial. Ça dépasse les frontières du Royaume-Uni, de l'Angleterre, de tout ça. L'Angleterre de la Régence, qu'elle a si bien représentée. Pourquoi ça plaît
Est-ce
encore
qu'on peut
aujourd'hui
préciser ce qu'est l'Angleterre de la Régence?
Oui.
C'est ce passage, ces transmissions de pouvoir entre George III et George IV?
Oui, je pense que les adeptes de Netflix connaissent bien la série La Reine Charlotte. Et effectivement, ça se passe sous George III. Et on est donc dans la période géorgienne. On a tendance à assimiler Jane Austen à la période victorienne. C'est pas juste. Géorgienne et régence parce que le roi souffrait, bon, on va dire, d'une sorte de folie. Et c'est son fils, le futur George IV, qui prend le relais et qui donc régente l'Angleterre. Et il sera roi en 1820. Donc Jane Austen sera déjà décédée à ce moment-là.
Et est-ce que ça a eu des incidences sur la vie de la société anglaise de l'époque qu'on peut retrouver dans l'œuvre de Jane Austen également ?
Le fait qu'il y ait une régence ? C'est une question intéressante. Probablement. Je n'ai pas les compétences géopolitiques pour y répondre, mais certainement. En tout cas, le prince régent était un personnage vraiment détesté, et détesté spécifiquement dans la famille Austen. On sait qu'on n'aimait pas ses frasques, on n'aimait pas la façon qu'il avait de traiter les femmes en général. Donc oui, probablement, ça a des répercussions sur les écrits de Jane Austen, d'une manière ou d'une autre.
Parce qu'il y a eu des faits d'armes, des faits divers plus assez glauques le concernant ?
Des maîtresses, des dépenses inconsidérées, des éclats tapageurs, oui. C'est un peu matérialisé par le pavillon du Régent qu'on peut retrouver à Brighton. C'est tout en, voilà, tout en, j'ai envie de dire en toc, bien que ce soit pas du toc, mais voilà, ça représente vraiment son règne. C'est quelque chose de complètement fantasmagorique, osé, percutant. Et...
Donc clairement, c'était le contre-exemple voilà, de ce qu'on veut aimer.
Voilà, on n'est pas dans la mesure avec lui, on n'est pas dans les standards acceptables par la famille Austen.
Clémence Poletti, selon vous, qu'est-ce qui explique cette fascination qu'exerce Jane Austen sur les jeunes générations ?
Alors, selon moi, il y a plusieurs choses. Il y a une première chose qui est... Alors, le roman le plus connu de Jane Austen, c'est Orgueil et Préjugé. Notamment parce qu'il existe plusieurs adaptations qui sont extrêmement fameuses, connues, reconnues. Il y a, je crois... une envie chez les jeunes femmes d'être aimées et d'être comprises de la même manière que Monsieur Darcy, William Darcy, aime Elizabeth Bennet.
Oula. Moi,
alors oui, oui, je sais. Mais alors, il y a quelque chose de fondamental là-dedans et qui, je pense, mais chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes, je pense qu'ils ont envie d'être aimés de la même manière. Et il lui dit quand même cette phrase magnifique qui est « Vous avez pris possession de tout mon être lors de sa déclaration. Je vous aime. Mais un seul mot de vous suffira à me réduire au silence. » C'est-à-dire qu'il y a à la fois... cet aveu d'admiration, de fascination et d'amour, mais également ce respect que toutes et tous voulons obtenir. Jane Austen, c'est ça, c'est que dans ces rapports hommes-femmes qui sont la quintessence de son œuvre, il y a énormément de respect. Et je crois que plus ou moins consciemment, de manière plus ou moins dite, de manière objective, de manière conscientalisée, disons, un désir de respect entre les jeunes gens et les moins jeunes d'ailleurs. Il y a ça, il y a aussi une ironie tout à fait mordante qui n'est jamais suffisante ni méprisante. Envers sa caste, envers son système, mais elle dépeint la société contemporaine avec humour. Et ça, je crois que c'est une valeur qui reste, qui file à travers les générations, et qui est, pour la nôtre, tout à fait nécessaire et fondamentale. Donc je crois qu'en fait, elle est tout à fait profondément humaine, et que c'est ce qui plaît aujourd'hui aux jeunes générations. Elle est transgénérationnelle, quoi. Elle est profondément humaine. Je crois que c'est ça qui
Julie
qui fait son succès.
Oui.
Votre avis ?
Bah, je suis d'accord avec ce que Clémence et Claire ont dit. Je pense qu'il y a aussi la notion des dialogues qui sont d'une finesse incroyable. Les héroïnes en particulier, sans grand discours, elles arrivent à exister par elles-mêmes, dans un monde qui leur laisse pas forcément de place. Et puis l'ironie que soulignait Clémence, une lucidité qui traverse les siècles, vraiment, c'est ce qu'on retient. Elle a des thèmes qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. On a parlé de la déclaration de Darcy tout à l'heure. Jane Austen, elle a cette capacité à capter l'essence des rapports humains. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à s'identifier encore à ses romans et à ses héroïnes aujourd'hui.
Ce qui m'a surpris, alors non pas en préparant cette émission, parce que ça faisait un moment que Jane Austen me trottait dans la tête pour un blockbuster, mais il s'est bien tombé, les auditeurs l'ont réclamé pour cette dernière saison. Mais j'avais déjà vu, il y a quelques années de ça, que la reconnaissance de Jane Austen a été assez tardive. C'est-à-dire qu'au moment même où elle a commencé à sortir ses livres, elle signait même par
By a Lady,
c'était même pas son nom. Donc, comment on explique cette reconnaissance tardive de Jane Austen, Claire ?
Encore une fois, plusieurs facteurs. En fait, reconnaissance tardive, certes, mais il faut remettre les choses en contexte. Dans les années où a vécu Jane Austen, la diffusion du livre et de l'objet culturel tel qu'est le livre n'est pas la même que celle qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Donc, certes, elle n'était pas très connue, on va dire ça comme ça, mais dans son milieu, il y avait quand même une certaine reconnaissance. Et effectivement, elle signe by a lady parce que c'est mal vu pour une femme d'écrire des livres, c'est mal vu pour une femme de travailler déjà dans sa caste sociale, la gentry, c'est la petite noblesse non titrée. c'est une caste. Alors, dans Orgueil et Préjugés, on a une très bonne représentation de ça. On a Elisabeth Bennet et sa famille qui se situent à un côté du prisme, et de l'autre côté, Monsieur Darcy et son immense fortune. Voilà, ça c'est la gentry. Jane Austen fait partie de cette gentry. Elle n'a pas le droit de travailler, c'est déshonorant. Elle est fille de pasteur également. Donc, il y avait cette idée de ne pas déshonorer, entre guillemets, le nom de son père. Voilà, et ça ne se faisait pas. C'était, on a beaucoup parlé aussi des sœurs Brontë dans votre émission. Elles ont beaucoup été évoquées et elles ont, quelques années plus tard, également utilisé des noms de plumes. Donc, c'est quelque chose qui est assez...
Oui, d'ailleurs, même Marie Shelley, qui avait écrit exactement, Frankenstein, a eu énormément de mal aussi à s'imposer.
Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Voilà.
Et là, je vais vous poser une question en tant que lectrice. Comment vous avez découvert Jane Austen et par quelle œuvre ? Ce sera ma première question. Juliette ?
Moi, d'abord par le cinéma. J'ai vu l'adaptation de 2005 donc de Joe Wright, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. J'avais peut-être 11-12 ans, je dirais. Ça m'a tout de suite beaucoup plu, forcément. C'est une romance, c'était adapté, c'était traduit en français, donc très accessible. Et c'est après seulement que j'ai lu l'œuvre. Donc j'ai commencé par Orgueil et Préjugés bien avant de m'intéresser aux autres livres. D'ailleurs, je ne les ai lus que récemment, plutôt récemment. Quoi. Je les ai pas tous enchaînés. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle laisse, la lectrice interpréter. Les textes sont accessibles. Et puis aussi, le fait qu'ils étaient dans le domaine public, c'était quand même beaucoup plus accessible à tout le monde, et traduit en français. Donc c'est par Orgueil et Préjugés que j'ai rencontré Jane Austen. D'abord l'adaptation, puis après la version livre.
Clémence ?
Alors, Orgueil et Préjugés également. J'étais au collège. Il était dans le CDI de mon collège. Ça a été totalement bouleversant. Ça a été absolument formidable que de découvrir ces mots. Donc, c'était, alors certes, c'est une traduction, mais c'était formidable de découvrir tant de vocabulaire, parce qu'elle utilise un vocabulaire très suranné, très érudit, très précis. Et ça a été une totale fascination, d'abord pour le mot, et ensuite pour l'histoire, et pour, évidemment, Monsieur Darcy. Mais très vite, j'ai voulu lire les autres livres de Jane Austen, et il y en a un qui est mon petit préféré. Et donc, j'ai envie de parler, évidemment, Orgueil et Préjugés, c'est celui qu'on a tous et toutes lues, mais c'est l'abbaye de... Non, alors, je sais que vous avez un très bon accent anglais, moins. L'abbaye de Northanger, je dis Northanger, ok. qui est un roman qui a été paru donc, à titre posthume, mais qui est probablement le premier qu'elle ait écrit. Et ce roman-là m'a fait beaucoup d'effet, il me fait beaucoup d'effet, là je l'ai relu pour l'émission, qui est un roman d'apprentissage, et qui est lui aussi très ironique et très joli, puisque c'est une jeune femme qui est toute jeune, toute naïve, parce que les héroïnes de Jane Austen ne sont pas naïves.
Oui, elles sont souvent indépendantes.
Oui, très spirituelles. Et elle est un peu naïve et elle va découvrir ce qu'est la vraie vie et ce qu'est l'amour parce qu'elle va partir en voyage chez des amis de ses parents. Donc voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil à ce livre, en profiter, découvrez-le, lisez-le, parce que certes, ils sont tous très bons, on a chacune et chacun notre petite préférence, mais moi, c'est pour celui-ci et j'avais envie d'y faire un petit clin d'œil.
Claire ?
Excellent. Oui, je reviens juste, Clément, sur un tout petit détail. C'est pas le premier qu'elle ait écrit, parce qu'on sait qu'elle a écrit en même temps à peu près Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. C'est le premier qui avait été accepté par un éditeur et qui, à l'époque, s'appelait Suzanne. Et qui est resté comme ça des années sur les étagères de cet éditeur qui ne l'a jamais publié. Et Jane Austen a dû le racheter, en fait, des années après pour reprendre ses droits, en fait. Hein, oui. Moi, c'est... j'en parle souvent à tout le monde. C'est ma tante anglaise. J'ai vraiment de la chance dans la famille. J'ai un parrain, mon parrain, qui a épousé une anglaise et qui a bercé mon enfance, qui a eu grande influence sur moi et qui m'a fait découvrir sa culture. Et moi, j'étais très, très Brontë girl, indécrottable. Je voulais rien savoir d'autre que Emily Brontë, Charlotte Brontë, Anne Brontë. Et elle m'a dit, mais non, il faut que tu essayes Jane Austen. Et c'est sa maman, Hélène, qui m'a offert Mansfield Park, et qui m'a dit, vas-y, lance-toi, il faut que tu lises Jane Austen, tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Et voilà, et après, elle est restée dans ma vie, elle est repartie un petit peu sur la pointe des pieds, mais elle était toujours là.
Très bien. On parle évidemment beaucoup d'amour dans cette émission, donc pourquoi s'arrêter là? On va écouter Pride in the Name of Love par évidemment U2.
Frédéric Sigrist sur France Inter.
Tout a commencé avec la peste noire. En quelques semaines, les morts se sont mis à sortir de terre.
C'est pas possible.
En quête de chair humaine. Nous, les derniers survivants, n'avons qu'un moyen de tenir. Essaie de les affronter. Je me suis préparée à ça toute ma vie.
Les épouses les plus prometteuses sont ici, dans cette pièce. Les filles ont été formées pour le combat, monsieur. Par la cuisine.
Une femme doit avoir de solides connaissances en chant, en danse et dans l'art de la guerre.
Un extrait d'Orgueil et Préjugés et Zombies, réalisé en 2016 par Burst Years. Le film reprend la galerie de personnages et se situe à l'époque du roman de Jane Austen, mais avec, vous l'aurez compris, des zombies. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi j'ai découvert Jane Austen avec un film, une comédie que je revois encore avec beaucoup de plaisir régulièrement, qui s'appelle Coup de foudre à Bollywood. Donc en fait, elle est protéiforme. Comment on explique qu'elle a Orgueil et Préjugés est mis à toutes les sauces?
Il y a plusieurs raisons, encore une fois, toujours avec Jane Austen. Je pense déjà, il y a ce, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce truc-là qu'il n'y a que 6 romans et on n'en a jamais assez, en fait. Donc on les réinvente à l'envi, on se les réapproprie, on en fait des comédies Bollywood, des comédies gothiques, des BD, des mangas, parce qu'on n'en a jamais assez de Jane Austen. Et puis elle a cette particularité aussi que c'est, comme le disait Clémence, c'est tellement bien écrit, il y a une telle ouverture, une telle respiration quand on ouvre un de ses romans que c'est facile de le faire. Là, j'écoutais attentivement le dialogue du film. Et je me souviens, j'avais lu le roman aussi et je me disais, mais ça fonctionne hyper bien en fait. Il suffit juste de reprendre les grandes trames.
Ah oui, il n'y a rien de cassé, hein. Il suffit de l'adapter tel quel.
Ouais, ouais. Et le roman, pour le coup, est hyper fidèle à l'original. Après, le film est vachement sympa, mais le roman marche bien aussi, ouais.
Et alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, qu'est-ce que la société française Jane Austen?
Ah là, c'est presque un scoop.
Voilà, c'est une exclue. On a créé, lors du colloque à Paris, en avril, pour le 250e anniversaire de Jane Austen, on a créé la première société française Jane Austen. Il y en a dans tous les pays. Je dirais que la plus connue, c'est en Angleterre et en Amérique, ouais. Ouais. La JASNA. Donc là, il y avait une petite communauté de fans et de chercheurs à Paris-Nanterre en avril. Et on s'est dit, mais pourquoi pas créer la première société française sur Jane Austen, à l'occasion du coup du 250e anniversaire de sa naissance cette année.
Il y a des cérémonies et tout.
Ouais, c'est ça. c'est un gros événement qui prend toute l'année. Hein. Il y a des événements un peu tout le long de l'année. Oui. Et donc on s'est dit qu'on allait créer la première. Donc on a la chance d'avoir Claire avec nous, qui est coprésidente avec Marie-Laure Masséi-Chamaillou. On a tous un peu un rôle différent. Je sais que moi, je m'occupe, pas seulement moi, mais avec d'autres personnes, on s'occupe des réseaux sociaux, de la communication. Donc, c'est une société toute nouvelle. On a à peine une page Facebook. On n'a pas encore de communication officielle. Mais
oui, l'idée, c'est de partager avec le plus grand nombre possible l'œuvre de Jane Austen, de l'ouvrir non seulement, bien sûr, aux chercheurs, aux chercheuses, et puis à toutes les personnes que ça peut intéresser, pas seulement des gens qui sont plongés dans les livres.
Pas seulement des chercheurs.
C'est ouvert à tout le monde, absolument. Et c'est sur le modèle des sociétés un peu à l'américaine, à l'anglaise. Nous, on a envie de faire des événements festifs, on a envie aussi de faire des colloques, on a envie de faire de la recherche. On a envie aussi de montrer qu'en France, on sait faire des choses sur Jane Austen.
J'avais rencontré des membres de la société quand on avait fait un blockbuster sur Bram Stoker, où il y avait effectivement une société de fans de Bram Stoker, et aussi sur Sherlock Holmes. Et ils organisaient des sortes de pèlerinages à Baker Street, avec habillés en Sherlock Holmes, Watson et tout ça. Donc, si jamais vous optez tous pour la société géorgienne, je pourrais venir.
Oui, moi aussi, je veux en être.
En tenue, par contre.
En tenue.
Oui, bien sûr, évidemment. Alors, je pense que j'aurais du mal à rentrer dans les costumes de M. Darcy, mais je les ferai sur mesure. Revenons à Jane Austen, l'autrice, parce que, comme on l'a dit, elle n'a écrit que 6 romans. Mais comment sa famille a accueilli cette vocation d'autrice? Et parce que je me suis laissé dire qu'à l'époque, comme vous l'avez dit, c'était compliqué. Et est-ce qu'elle a été encouragée?
Oui, totalement. Oui. Elle est d'une famille qui aime les livres, la littérature, et qui appuie aussi le fait que les femmes doivent être instruites. Sa maman était la nièce d'un des... Alors, je ne sais plus le titre exact, mais d'un des directeurs d'Oxford. Et elle était extrêmement instruite. Elle venait d'une famille socialement plus élevée que celle de M. George Austen, le père de Jane. Et c'était une évidence pour cette famille que les filles devaient avoir accès à l'éducation. Alors,
c'était une fratrie de huit enfants. Mmh,
absolument.
Hein. Elle, c'est la septième, c'est ça?
Alors elle est parmi les... Exactement, elle est la deuxième fille. Et si les garçons ont pu aller à l'école, à Oxford, faire des études, les filles aussi sont allées à l'école, mais c'est pas Oxford comme les garçons, hein, c'est pas le niveau universitaire. Mais la bibliothèque paternelle, enfin familiale, d'environ 500 livres était ouverte aux filles. Donc,
on sait qu'elle lit beaucoup, hein, Richard Sord, Burney, Fielding, toutes les autrices.
Ah, donc elle avait des inspirations et c'était déjà des autrices aussi?
Oui,
elle disait Helen Fielding.
Ne serait-ce que Anne Radcliffe, tout à l'heure Clémence mentionnait Northanger Abbey.
Wollstonecraft peut-être?
Oui aussi, enfin on ne sait pas si elle l'a lu.
On a très peu de sources directes.
On ne sait pas, parce qu'il y avait une petite polémique autour de Mary Wollstonecraft à cette époque et son livre, on ne le trouvait pas facilement. C'est voilà, il y avait une réputation sulfureuse. Oui, elle avait accès à la bibliothèque et elle lisait et même elle... Elle participait à des financements de femmes, enfin, elle donnait de l'argent pour financer des femmes qui voulaient être publiées.
Comme des projets Kickstarter.
Exactement, on a retrouvé des traces de ça, oui, tout à fait.
Ah donc il y avait déjà un agenda féministe en tant qu'autrice qui était déjà très clairement publié.
Oui, sans qu'elle en ait véritablement conscience, parce que le féminisme n'était probablement pas à l'ordre du jour, mais je trouve qu'elle le fait très bien quand elle démontre les absurdités de son époque. Je pense aux sœurs Dashwood dans Raison et Sentiment, qui doivent quitter la maison familiale où elles ont grandi, où elles sont nées, où elles ont toujours vécu, au profit d'un demi-frère qui a déjà une grande maison à Londres et qui doit leur laisser tout. Voilà. Et ça, elle ne dit pas que c'est pas bien. Elle dit juste, regardez comment ça se passe et voyez par vous-même. Mmh. Voilà.
Clémence ?
Oui, on sait très peu de choses sur Jane Austen. C'est vrai, on a peu d'éléments biographiques seulement. Et on a retrouvé des lettres qu'elle a écrites à ses nièces. Et donc cette correspondance est publiée au livre de poche. Et il y a quelque chose de formidable, c'est qu'elle écrit des lettres, notamment à sa nièce Anna, dans lesquelles elle lui fait des retours extrêmement précis et constructifs sur la rédaction de ses manuscrits à elle. Donc elle aidait ses nièces, elle aidait d'autres femmes à écrire des romans épistolaires. Et puis elle y va, je veux dire, elle ne fait pas dans la dentelle quand elle donne des conseils.
Anna n'a pas eu la chance de poursuivre sa carrière. Elle a eu, je pense, une bonne dizaine d'enfants, ce qui l'a empêchée probablement.
Oui, ça, en général, ça prend du temps.
C'est vrai que quand on lit cette correspondance, on a très envie de découvrir le manuscrit de Anna. Parce qu'elle lui donne tant de détails, c'est incroyable, c'est un vrai travail d'éditrice.
Mais d'ailleurs, dans cette correspondance, et j'ai bien lu, il y a certaines lettres d'ailleurs qui ont disparu parce qu'on ne voulait pas que ça nuise à la réputation de Jane Austen après sa mort.
Toutes les lettres qu'elle a écrites, par exemple, à sa sœur Cassandra, elles ont été brûlées.
Oui.
Donc, on a très peu de sources directes.
Pas toutes les lettres, mais il en reste environ 161.
Leur correspondance était très fournie et il ne nous en reste quasiment plus. Et peut-être pour préserver une forme de pudeur ou d'intimité. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se réinvente constamment. C'est parce qu'on a très peu de sources directes et on sait très peu de choses d'elle et ça favorise... l'adaptation, la réinvention, puisqu'on fantasme un peu sur sa vie privée.
Et là, je devrais déjà lancer le CD2, hein, je sais qu'ils sont, ils sont en train de prendre feu à l'arrière, mais puisqu'on en parle, c'est quelque chose, finalement, de très anglais, parce que Agatha Christie a une période de sa vie aussi où, pouf, elle disparaît. Quand on a fait un blockbuster sur William Shakespeare, il y a une partie de sa vie, pouf, on ne sait rien. Les auteurs et autrices anglaises cultivent, savent disparaître...
L'art de la pudeur à l'anglaise.
L'art de la pudeur à l'anglaise. Alors, vous allez être contents, je vais lancer le deuxième CD. On est ensemble pour parler de Jane Austen avec Clémence Politi, Claire Saim et Juliette Cousin. Mais tout de suite, on écoute Sad Girl avec Ioa.
Je dois tout recommencer. Réécrire comme je l'avais pensé. Que dans oh oh. Cette fois j'ai capitulé. Et accroche-toi comme on s'accroche à son enfance. C'est bizarre de rêver sans jamais y croire. Pourquoi la vie n'est remplie que d'imprévus inattendus? Toujours elle vise jamais où tu l'avais vu. Quelle étais-tu?
Blockbuster sur France Inter.
Et alors vous? Vous n'êtes pas marié?
Non. Éléonore. J'ai rencontré Lucie quand j'étais très jeune. Si j'avais eu quelques professions, je n'aurais jamais donné prise à l'oisiveté. Mère de cette folle inclination. Je me suis mal conduit à Norland, j'en conviens. Mais je me plaisais à penser que vous n'aviez que de l'amitié pour moi. Et que seul mon cœur risquait de se laisser prendre. Je suis venu vous voir sans espoir aucun. Uniquement pour vous déclarer, maintenant que je suis libre de le faire, que mon cœur est et sera toute ma vie.
Ah, c'est sûr que ça vend beaucoup plus de rêves que « Viens, on va au McDo hein. ». Vous venez d'entendre un extrait du film « Raison et sentiments » réalisé en 1995 par Ang Lee, avec Emma Thompson dans le rôle d'Eleanor Dashwood et Hugh Grant dans le rôle d'Edward Ferrars. Ils sont respectivement doublés en français par Frédéric Tirmont et Guillaume Orsa. Alors, dans l'œuvre de Jane Austen, on entend souvent parler de mariage, mais... il ne faut pas s'y tromper, c'est-à-dire qu'on parle peut-être moins d'amour que de liberté, et sauf qu'à l'époque, la liberté, pour une femme, ça passe obligatoirement par le mariage. Donc c'est plus une autrice de... Est-ce que vous allez dans mon sens ou pas? Je vous pose la question à toutes les trois.
Alors, oui, tout à fait. C'est vrai que, pour l'époque, l'indépendance de la femme passe par le mariage. Néanmoins, Jane Austen, même si elle en parle et qu'à chaque fois ses héroïnes finissent par se marier...
D'ailleurs, est-ce qu'elle était mariée?
Non. Elle a eu une histoire d'amour lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Et en fait, le mariage a été... Alors, c'est bien ça, le mariage a été empêché parce qu'elle n'avait pas assez d'argent.
Alors, c'est pas tout à fait ça.
D'accord,
je vais me permettre de...
Voilà,
c'est,
ouais, dossier, mais je me permets juste de nuancer. C'était plutôt un flirt, on va dire. Elle avait 20 ans, Tom Lefroy avait 20 ans également, c'était un flirt. Et le mariage était simplement vu d'un mauvais œil par leurs familles respectives, parce que ni l'un ni l'autre n'avaient d'argent.
Voilà, oui, c'est ce que je veux dire.
Mais ce n'est probablement pas la personne qu'elle a aimée le plus. Elle a vraisemblablement été très très amoureuse d'un jeune homme un petit peu plus tard dans sa vie, et ça a été raconté par des nièces qui avaient eu des conversations avec Cassandra, la sœur de Jane, bien après sa mort. Et Cassandra avait raconté que Jane avait été très amoureuse à un moment donné dans sa vie, je crois que c'était à l'aube de ses 30 ans, et qu'il y avait un jeune homme, un révérend, enfin un pasteur comme son père, et qu'il était question de mariage, et que elle, Cassandra, le trouvait digne de sa sœur. Et le jeune homme est mort, ça on sait. Donc ça aurait été lui, le vrai amour de sa vie, mais on ne sait rien, on ne sait pas son nom. On sait juste que cette histoire s'est passée dans le sud de l'Angleterre, pendant des vacances, avec les parents, etc. Et Tom Lefroy, c'était un flirt de jeunesse. Ça a été très, très romancé hein, dans un biopic. Je sais que Frédéric, vous n'aimez pas trop les biopics.
Ah, mais vous suivez vraiment très, très bien Blockbuster.
Et vous avez raison, parce que pour le coup, c'est un petit peu n'importe quoi ce qui est raconté dans le film avec Anne Hathaway. Oui. Enfin, c'est complètement romancé. On la voit à la fin du film recueillir les faveurs du public. C'est arrivé à Charlotte Brontë. Ce n'est pas arrivé à Jane Austen. Elle est morte bien avant. Donc, ça raconte un peu n'importe quoi ce film.
Voilà. En plus, il manque de panache, ce film. Ouais. Il manque complètement.
Mais surtout qu'en plus, là, en vous écoutant, dans ma tête, je faisais un mix avec Fleabag et Phoebe Waller-Bridge et j'imaginais Jane Austen avec la tête de Phoebe Waller-Bridge et son histoire d'amour avec le prêtre. Je me suis dit, oh, c'est formidable, tout se relie.
Oui.
Il y a une sorte de crossover.
Bon, là, c'était dans la religion anglicane, donc un prêtre peut se marier.
Ah, oui.
C'était pas le problème. Le problème, c'est qu'il est mort, le bougre.
Oui, c'est souvent un obstacle à pas mal de choses.
Voilà.
Et. C'est une période aussi où on voit apparaître une bourgeoisie qui est plus fortunée. Il y a une aristocratie anglaise qui a ses privilèges. Est-ce que tout ça se sent aussi dans l'œuvre de Jane Austen, c'est arrivée des nouveaux riches, comme on peut les appeler?
Oui, ça se sent, parce que justement, elle était fine observatrice de son époque. Elle avait pour principe de n'évoquer dans ses romans que ce qu'elle avait pu observer ou expérimenter elle-même. C'est pour ça que, par exemple, on n'a pas d'héroïne londonienne. Elle ne sait pas ce que c'est que d'être londonienne, de vivre à Londres toute l'année, de profiter des magasins. Enfin, vraiment, c'est ce qui pouvait se faire pour une jeune femme de l'époque.
Mais c'est toujours un événement quand elle va à Londres.
Ah oui, voilà.
Le voyage
comme,
à Londres.
Comme une provinciale qui va à la capitale, exactement. Et c'était pareil avec Bass, d'ailleurs.
Mmh. Ou comme l'ours Paddington aussi.
Oui, c'est ça. Oui.
Et la vie mondaine, les dîners et tous ces bals ont une certaine importance dans l'œuvre de Jane Austen. À chaque fois, c'est là où il y a des punchlines qui sont lâchées par différents protagonistes. Quel regard elle portait sur ces événements où finalement tout le monde est en représentation, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller à faire n'importe quoi, parce qu'on sait qu'on est regardé par les familles, par des voisins, d'autres notables.
Mmh. C'est pour ça que dans les adaptations, les scènes de bal sont très importantes et font avancer l'intrigue. C'est là que les histoires se nouent ou se dénouent, et dans les romans, oui, c'est là que les jeunes gens peuvent s'approcher. Sans que ça paraisse bizarre, que l'on reste plus de 5 minutes avec un jeune homme, que l'on danse, que l'on se tienne la main. C'est comme ça, les relations sociales de l'époque, c'est tout à fait normal.
Et puis, si je peux rebondir, c'est vraiment
là
qu'on peut se toucher dans la limite du raisonnable. On sait qu'à l'époque, c'est pas permis de se toucher. On a un domaine qui s'appelle haptique, donc c'est la science du toucher. Donc j'en parle dans mon mémoire, et c'est vrai que le moindre toucher dans un roman de Jane Austen, ça fait fureur, quoi. Les représentations à l'écran, surtout, je sais que tout le monde parle et pense à la scène dans la version 2005 quand Mr. Darcy aide Elizabeth à monter dans le carrosse, il lui tient la main et elle n'a pas de gants, et lui non plus, et on le voit faire un hand flex, donc il tend sa main électrisée par le toucher, et c'est vraiment ce qui émeut tout le monde, alors que c'est pas...
Et surtout, cette scène n'a pas lieu dans le livre.
Non, c'est ça.
C'est ça qui est incroyable.
C'est l'adaptation à l'écran, je pense, qui est vraiment...
Ce qui est fou, c'est que la pop culture s'est complètement emparée de cette scène qui est magnifique, et puis en plus, il y a des gros plans sur les mains, il y a des gens qui sont tatoués la main. Mais ce qui est formidable, c'est que cette scène n'est pas dans le livre.
Non. Je pense que c'est parce que c'est propice à l'adaptation à l'écran. C'est un peu le yearning, donc c'est le languir.
Ce languir, oui.
Ouais, ce languir qui est là tout au long du roman, parce qu'évidemment, il n'y a pas de scène de baiser, il n'y a pas de scène de tendresse, c'est vraiment les seuls moments de contact, et c'est ce que le lecteur ou le spectateur recherche, quoi.
Alors, ça me frappe, mais particulièrement en vous écoutant, c'est qu'on a fait une émission sur les K-dramas. Et sur l'essor au niveau mondial des K-dramas et la redéfinition des rapports amoureux et aussi sentimentaux entre hommes et femmes. Et en fait, le K-drama fonctionne exactement sur les mêmes codes de la communication, on s'effleure, et de cette dimension du respect de l'autre. Et donc, en fait, ça vient de me frapper et je me dis que les K-dramas sont austéniens.
Elle est partout.
Elle est partout. Elle est partout, même en Corée.
Oui, oui.
Vous connaissez l'émission, on a une dernière chanson avant la dernière partie, donc on écoute Incompréhensible par Big Fif.
Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Une nouvelle des plus alarmantes m'est parvenue, à savoir que vous avez l'intention de vous unir à mon neveu, M. Darcy. Bien qu'il s'agisse d'un mensonge scandaleux et que je ne veuille pas faire injure à mon neveu en supposant la chose possible, j'ai tenu à ce que vous connaissiez mes sentiments sur le champ.
Si vous pensez que cela ne peut être possible, pourquoi vous êtes-vous donné la peine de venir ?
Pour exiger un démenti, Miss Bennet.
Votre venue ici ne fera que confirmer cette nouvelle, s'il est vrai qu'on l'était bruité.
S'il est vrai ? Vous osez prétendre ne pas en avoir eu vent ? N'est-ce pas vous qui vous êtes appliqué à la faire circuler ?
Je n'en ai jamais eu vent.
Et diriez-vous que cette nouvelle n'est nullement fondée ?
Je ne prétends pas être aussi franche que vous, chère madame. Il se peut que je refuse de répondre à certaines de vos questions.
Cela ne se peut supporter. Dites-moi si mon neveu vous a demandé en mariage.
J'avais affirmé que la chose était impossible.
Comprenez-moi bien. Monsieur Darcy est fiancé à mon unique fille. Et maintenant, qu'avez-vous à dire ?
Je dis que s'il en est ainsi, vous n'avez aucune raison de penser qu'il m'a demandé en mariage.
Vous n'êtes qu'une égoïste. Cet engagement a été pris quand ils étaient enfants. Croyez-vous vraiment qu'il puisse être remis en question par une jeune fille de petite condition, dont la plus jeune sœur a fait une fugue, qui s'est soldée par un mariage honteux, qui n'est en réalité qu'un replâtrage qui s'est fait aux frais de votre oncle? Dieu du ciel, les terres de Pemberley peuvent-elles être à ce point souillées? Répondez-moi une fois pour toutes, lui êtes-vous fiancée?
I am not.
Non, madame.
C'était un second extrait du film Orgueil et Préjugés, réalisé par Joe Wright. Judi Dench, l'incroyable Judi Dench, doublé en français par Evelyn Selena, joue le rôle de Lady Catherine, la tante de Mr. Darcy. Alors, le cinéma a particulièrement bien servi Jane Austen. Est-ce que ce métissage permanent entre la littérature et les adaptations explique aussi son succès? Parce que, par exemple, je sais que quand beaucoup de mes amis parlent de Darcy, je sais qu'il a le visage de Colin Firth.
Ça dépend. Ça dépend de la génération.
Ouais, générationnelle, oui, c'est vrai.
C'est soit
vrai.
Colin Firth, soit celui de 2005, j'ai oublié son nom.
Moi aussi.
Matthew McFadden. Oui, voilà. Moi, par exemple, c'est Matthew McFadden. C'est non négociable.
D'accord,
mais je sais qu'il y a un petit clash comme ça, assez rigolo. Voilà, on s'identifie. À quelle version tu t'identifies? Bah, moi, c'est 1995.
Il y a des gens qui ont leur James Bond et puis il y en a d'autres qui ont leur Darcy.
C'est exactement ça.
D'autant que Colin Firth a joué Mark Darcy dans Bridget Jones,
oui.
Qui est une réécriture
oui.
D'Orgueil et Préjugés, donc, enfin de Jane Austen. Donc Darcy, qui s'appelle William dans celui de Jane Austen, c'est vrai que c'est un peu Colin Firth, mais...
Moi, c'est devenu un personnage à part entière.
Ça s'appelle Fitzwilliam même.
Ouais,
Fitzwilliam. Donc on ne peut plus porter aujourd'hui.
Et comme vous l'avez dit, Clémence... Il y a des scènes, des enrichissements faits par le cinéma qui profitent à l'œuvre de Jane Austen aussi, dans une sorte de dialogue permanent entre le roman originel et la version cinéma. On parlait de ce passage de cette fameuse main, mais dans la série de la BBC, je crois qu'il y a la scène où Colin Firth tombe dans le lac.
Oui, c'est vrai. Il y a cette scène qui, en plus, par vous qui êtes spécialiste des mèmes, des memes, elle a été beaucoup reprise, cette scène.
C'est surtout avec l'essor d'Internet et des cultures, des communautés sur les réseaux sociaux, tout ça, on peut faire voyager l'œuvre, se la réapproprier, donc faire des memes, donc des images un peu marrantes avec des captions.
Des passages, des citations.
Des citations, voilà.
En fait, Monsieur Darcy, n'a jamais plongé dans un lac
pour se
défaire de tous ses sentiments. C'est dans une espèce. Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est une manière très virile de s'exprimer, alors que dans le livre, il est un peu moins.
Oui.
Il a été masculinisé à l'écran.
Voilà.
C'est ça.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation de Clémence. Moi, je le vois plutôt comme... en fait, on a appris après, en lisant en voyant les making-of de la série, etc., qu'en fait, Colin Firth, on lui a demandé d'être nu pour cette scène. Et il a refusé, et c'est devenu la fameuse scène du lac.
Ah, et donc il est beaucoup plus séduisant avec une chemise mouillée.
Voilà, c'est une sorte de mise à nu, parce qu'il se retrouve ridicule un peu devant Elizabeth Bennet, qui est l'objet de tous ses fantasmes. Elle est habillée, donc elle est en position de force devant lui. Lui, il est complètement perdu. On voit bien comment interprète Colin Firth ce personnage à ce moment-là, et on sent bien qu'il est perdu, qu'il est... Voilà, qu'il est désemparé, qu'il a perdu toute sa superbe devant Elizabeth Bennet. Enfin, moi, c'est comme ça que
je dirais même que ça a plus, de pouvoir, fait qu'il soit pas nu, quoi.
Oui, tout à fait. Moi, érotique. C'est encore plus, érotique. Et puis, il y a une forme d'exutoire émotionnel qu'il ne peut exprimer parce qu'il est un homme. Il ne peut exprimer par les larmes par les mots. Ouais. Donc c'est une manière physique de réagir. C'est pour ça que j'ai trouvé...
Eh bien, Clémence Pouletti, Claire Saïm, Juliette Cousin, je vous remercie. Merci d'avoir évoqué l'œuvre courte mais puissante de Jane Austen. Et merci également à Étienne Bertin et à Mazir Amadaïn Guest qui ont réalisé cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Dussy. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Jérôme Gragano au mixage, Achille Aknin. Comme toujours pour les messages, le répondeur est ouvert tout l'été au 01 56 40 30 20. Et vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur laquelle vous retrouvez toutes sortes d'informations sur l'après-blockbuster. Le lien pour s'inscrire est disponible sur mon compte Instagram @frédéric.sigrist. Demain, on se retrouve pour pour parler d'un monument de la bande dessinée française, La Quête de l'Oiseau du Temps, en compagnie des scénaristes et dessinateurs Régis Loisel et Serge Le Tendre.
Vous saviez qu'Emma Thompson avait rencontré son mari sur le tournage de ce film ? 35 ans que ça dure. J'adore l'anecdote.
Greg Wise, oui.
Mais il est trop beau lui aussi.
Oh, m'en parle pas.
Tu sais comment je me console, Wendy ? Grâce aux histoires d'amour dans l'Angleterre victorienne. Romantisme, honneur. C'est vrai quoi, personne se tape d'influenceuse dans les bouquins de Jane Austen.